Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif, donc c'est Amnesty International.
C'est notre entrée.
C'est ça. On est revenu sur l'antenne de Principe Actif pour une nouvelle saison. On ne vous dira pas la combientième
mais
que c'est.
Non, mais non, quand voilà. On aime, on compte pas.
Voilà. Donc deux fois par mois, hein, on vous rappelle pendant une heure la promotion et la défense des droits humains, puisque c'est la raison d'être d'Amnesty International. Beaucoup d'informations. Pas forcément du tout celles que vous entendez sur les médias mainstream, comme on dit, mais d'autres informations aussi. Et puis des appels à l'action, et puis plein de choses intéressantes, effectivement, pour venir aussi avec nous participer à nos combats pour la défense des droits humains. Voilà. Donc, pour animer l'émission ce soir, vous l'avez déjà entendu, il y a Edith.
Ouais, c'est moi. Bonsoir, bonjour, bon été, bonne rentrée, des bonnes choses.
Bonne rentrée maintenant. Hein,
parce que voilà, oui, mais j'espère qu'ils ont tous passé un bel été.
Après la pause musicale estivale, comme tous les ans. On va dédier l'émission, on ne l'avait pas dit avant en préparant le conducteur, mais ça me vient à l'esprit tout de suite. On va dédier l'émission à notre amie Claire Lise, que vous entendez souvent avec nous pendant nos émissions.
Qui
revient bientôt parce qu'elle a dû se faire hospitaliser, mais tout va bien. Et donc, elle ne sera pas à l'antenne pour les prochaines émissions, mais elle revient très rapidement. On lui fait une grosse bise. D'après les nouvelles qu'on a, tout va bien, effectivement. Donc, tant mieux. Et on te souhaite de revenir à l'antenne dès que possible.
Voilà, et Claire-Lise, même allongée, elle travaille. C'est terrible.
Oui, même allongée, elle travaille. Oui, c'est ça. Alors, bon, pour commencer l'émission, on va forcément vous parler de choses qui sont un peu dramatiques et un peu dures dans nos émissions. C'est inévitable hein, quand on parle de combat pour les droits humains et de tout ce qui se passe contre, effectivement, le respect des droits humains dans le monde. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses. Mais ce soir, on s'est quand même dit qu'on allait quand même aussi laisser de la place pour des choses positives. Donc, je vais commencer par une toute petite intervention. Si vous avez suivi les résultats du palmarès du dernier festival de Cannes, là, au mois de mai, c'est un cinéaste iranien qui s'appelle Jafar Panahi qui a eu la Palme d'Or. Son film s'appelle « Un simple accident ». Il va sortir en salle le 1er octobre en France. Donc je pense qu'on ira tous le voir et aussi vous tous qui nous écoutez, il faudra y aller. Et donc il était interviewé là, cet été dans ce cinéaste Jafar Panahi dans la chronique qui est le mensuel d'Amnesty International France. On vous le rappelle à chaque fois. Et donc, il parle de la situation forcément en Iran, puisque son film, il l'a quand même réalisé clandestinement. Il l'a tourné là-bas, mais clandestinement. Les autorisations, c'était impossible que les autorisations soient accordées.
Il sortait de prison un peu
oui,
aussi. Il a été emprisonné en Iran.
Plusieurs fois, effectivement. Donc voilà. Et voilà ce qu'il dit dans son interview. Bon, j'ai sélectionné deux passages qui sont quand même, pour moi, assez encourageants. Il dit « J'ai 65 ans. J'ignore si de mon vivant j'assisterai à l'effondrement de ce régime, il parle du régime de la dictature iranienne bien sûr, mais je le sens venir, ce n'est qu'une question de temps, je l'ai dit à Cannes. Économiquement, politiquement, idéologiquement, la République islamique se délite, elle est une coquille vide. Certes, j'ai perdu ma ligne, certes elle détient encore l'argent et les armes, mais elle n'ose pas affronter le peuple. Au printemps dernier, par exemple, les autorités n'ont pas augmenté le prix de l'essence de peur d'un soulèvement, alors que l'essence reste moins chère que l'eau. Face à la détermination de la rue, elles ont également renoncé à durcir les sanctions liées au port du foulard. Je suis curieux des temps à venir. » Et un peu plus loin dans l'interview, j'ai souligné un autre passage où il dit... Il parle de lui, effectivement, comme vous disiez, Edith, qui a fait plusieurs séjours en prison. Lorsqu'on emprisonne un artiste, lorsqu'on tente de le soumettre, on ignore ce que l'on libère en lui. En tentant de nous assécher, de nous briser ou de nous laver le cerveau, la République islamique obtient l'effet inverse. Plus elle nous enferme, plus elle nous rend subversifs. Sans doute, cette palme d'or me rend plus difficile à faire taire. Désormais, tout ce qui m'arrive se déroule sous les yeux du monde entier. Donc voilà, je trouvais que c'était quand même des commentaires qui changent un peu des commentaires dramatiques sur la République islamique d'Iran. Et Dieu sait qu'il faut continuer à lutter contre ce régime et à réclamer le retour de la démocratie là-bas. On est tous d'accord, et le respect des droits des femmes. Mais bon, et je voulais vous dire, pour terminer cette petite intro, alors je vais un peu passer du coq à l'âne, puisque je vais vous parler d'une personne qui, lui, par contre, ne lutte pas du tout pour le respect des droits humains, mais fait exactement l'inverse. Il s'appelle Donald Trump, et j'ai entendu une information qui m'a laissé quand même sans voix hier ou avant-hier. Donald Trump a demandé à la NASA, donc l'organisme américain qui gère tout ce qui concerne la mise en orbite des satellites et tout ce qui concerne le spatial, il leur a demandé de détruire deux satellites qui servent à étudier la météo et l'évolution climatique. Raison officielle de la part de l'administration Trump, ça coûte trop cher. Donc effectivement, il faut les détruire parce qu'on n'a plus d'argent à mettre là-dedans. Pour l'instant, la NASA n'a pas répondu, elle n'a pas dit si elle allait passer à l'acte ou pas. Mais en fait, bien évidemment que derrière ce que cherche à faire Donald Trump, c'est en fait de tarir les sources qui apportent chaque jour un peu plus les preuves comme quoi le changement climatique, effectivement, est dû à l'activité humaine et nous mène à des catastrophes malheureusement
environnementales, mondiales,
très probables,
humaines,
dans un avenir plus ou moins proche. Comme il continue à dire que c'est pas vrai, et ben pour effectivement
on enlève les jouets, enlève les satellites.
Pour effectivement confirmer ses mensonges, et ben on note la source, on supprime la source. C'est le but de cette démarche. Alors c'est quand même absolument hallucinant. Et moi, ça me rappelle un bouquin, et je terminerai là-dessus, que je suis en train de relire, qui s'appelle 1984, dans une nouvelle traduction, et 1984 d'Orwell, et qui décrit bien, effectivement, dans une dictature qu'il imaginait, lui, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ce genre de choses, où on réécrit l'histoire systématiquement, où on lave le cerveau des gens pour que tout ce qui a été dit et qui ne s'est pas réalisé colle à des fausses prévisions qui avaient été, soi-disant, mises à la connaissance du public avant. Donc voilà, on ment et on cache. Et donc, c'est tout à fait ce que continue à faire l'administration Trump à l'heure actuelle. Voilà. Pour continuer l'émission, je crois qu'Edith voulait vous parler d'une actualité tout à fait sensible, ce qui est
tout à fait, voilà. Moi, je pense, effectivement, c'est vrai que cet été, comment dire, il y avait tellement d'informations qui étaient compliquées, dures, difficiles, que j'ai fait un petit... je me suis mis un peu en retrait. Mais quand même, il y a quelque chose que je n'ai pas pu éviter et qui m'est vraiment insupportable, c'est la situation à Gaza. Donc la dernière... on retrouve aussi l'armée israélienne qui est soutenue par Trump à 120%. Il faut quand même aussi se le dire que peut-être que s'il n'y avait pas Trump derrière, ça changerait. Donc c'est où allons-nous aller, les Gazaouis forcés au départ, après l'ordre d'évacuation d'Israël. Donc, ce 9 septembre dernier, l'armée israélienne a émis un ordre d'évacuation illégal aux habitants de Gaza. À bout de force, les Gazaouis décrivent devoir choisir entre deux morts, mourir sous les bombardements ou mourir lentement d'un énième déplacement forcé. Alors, ce que je vais vous donner, c'est les témoignages. Bon, ce qui se passe, on le connaît tous. Donc, ce nouvel ordre d'évacuation, combiné à l'intensification des opérations militaires à Gaza, illustre une fois de plus la volonté délibérée d'Israël de détruire moralement et physiquement une population déjà dévastée. Alors, ils ont reçu des petits tracts largués par centaines par des avions militaires. C'est marqué dessus « Avertissement urgent à tous ceux qui n'ont pas encore quitter la ville de Gaza, comme vous l'avez constaté. Alors, il y a plus d'autres phrases, mais c'est là ce qui est résumé. L'armée israélienne est déterminée à vaincre le Hamas partout et agira dans la ville de Gaza avec une puissance accrue. Voilà. Donc, les témoignages sont terribles. Je ne peux pas abandonner mes patients. C'est un médecin à Gaza. Un médecin soignant des enfants souffrant de malnutrition a témoigné auprès de nos équipes. Je ne peux pas abandonner mes patients. Ces petits-enfants dont le corps est trop fragile pour supporter un nouveau déplacement, mais je ne sais pas quoi faire. Cela revient à choisir entre deux morts, mourir sous les bombardements ou mourir lentement à cause du déplacement sans savoir où aller. J'ai déjà été déplacée 15 fois. Je n'ai pas fermé l'œil, depuis plusieurs nuits à cause des bombardements intensifs non loin. Nous nous efforçons d'aller travailler pour soigner les enfants, mais nous sommes à bout. Un autre témoignage. Nous ne pouvons plus revivre cette épreuve sans fin. Une grand-mère avec sa petite fille de 8 ans. Elle est tout ce qui me reste, confie une femme gazaoui au sujet de sa petite fille de 8 ans, blessée, et dont les parents ont été tués lors d'une frappe aérienne en mai dernier. Je fais tout ce que je peux pour la protéger. Nous avons été déplacés 2 fois rien que la semaine dernière. Nous n'avons pas les moyens d'aller vers le sud. Nous n'en pouvons plus de revivre cette épreuve sans fin. Certains avaient déjà tenté de fuir vers le sud lorsqu'Israël a demandé à frapper de hauts immeubles, a commencé à frapper de hauts immeubles le 5 septembre. Mais ils n'ont pas pu le faire faute de moyens pour payer les frais de transport ou parce que la petite zone désignée par Israël pour les accueillir n'était pas habitable. Et le transport ? Un transport vers le sud compte 1 000 euros, dit une femme âgée handicapée. Nous avons déjà été déplacés de Sheikh Ramwan il y a 3 semaines, témoigne une femme âgée en situation de handicap, vivant dans un camp de fortune pour personnes déplacées à Tal al-Hawa, dans le sud de la ville de Gaza. Mon fils m'a porté sur ses épaules car je n'ai pas de fauteuil roulant et aucun moyen de transport ne pouvait venir jusqu'à notre quartier. Aujourd'hui, on nous ordonne encore d'évacuer. Mais pour aller où ? Un moyen de transport vers le sud coûte près de 4 000 shekels, environ 1 025 euros, et une tente au moins 3 800 euros. Sans compter que nous ne savons pas si nous trouverons un endroit où s'installer. Nous avons déjà dépensé toutes nos économies pour survivre à cette guerre, pour de la nourriture, des produits de première nécessité. Chaque jour, on a l'impression que la guerre recommence, mais en pire, et nous sommes épuisés. Nous n'avons plus de volonté ni la force de continuer. Ces témoignages ont été recueillis. Des habitants de Gaza sont sans équivoque. Israël poursuit son génocide. La ville de Gaza, dont le patrimoine remonte à plusieurs millénaires, enfin, on parle de patrimoine quand on voit la vie des gens, voilà, c'est très compliqué, a déjà subi des destructions et des dégâts majeurs et menacé d'un anéantissement complet. Eba Morayef, directrice régionale pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient à Amnesty, déclare « Israël se montre déterminé à parvenir à son objectif, à savoir détruire physiquement la population palestinienne dans la bande de Gaza ». Voilà, ça c'est les témoignages. Il y en a eu tout plein pendant tout l'été. Il y a des témoignages, un autre que je ne vous ai pas lu, c'est d'une personne qui travaille pour les ONG et qui raconte vraiment où il en est avec le manque de nourriture. Et il est vraiment très poignant aussi ce témoignage-là. On le retrouve sur le site d'Amnesty. Et pourtant, les États et les entreprises qui continuent d'armer Israël risquent de se rendre complices de ce génocide. Et tous ceux qui exercent une influence sur Israël doivent faire pression pour mettre un terme à cette campagne génocidaire et pour que la population ait pleinement accès à l'aide humanitaire. Voilà. L'histoire ne pardonnera pas l'inaction, mais la jugera. Donc, un autre petit article qui correspond aussi à ce qui se passe à Gaza, c'est le manque d'informations en direct, puisqu'il y a vraiment beaucoup de journalistes qui ont été tués. En près de 23 mois d'opération militaire, 220 journalistes palestiniens ont été tués par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, selon les données de l'organisation Reporters sans frontières. Parmi eux, au moins 56 ont été ciblés par l'armée israélienne ou tués dans l'exercice de leur travail. Alors, au rythme où va l'armée israélienne, il n'y aura bientôt plus personne pour vous informer. Et donc, il y a eu le 1er septembre dernier une manifestation pour protester, soutenir les journalistes palestiniens gazaouis qui restent. Il y a eu 270 médias de 70 pays qui se sont mobilisés en affichant des unes entièrement ou partiellement noires ou en diffusant une déclaration commune. Donc, à côté de ces médias réunis, il y a eu un mouvement citoyen d'Avas aussi, et qui demande dénoncer les meurtres des journalistes palestiniens par l'armée israélienne, demandant la fin de l'impunité des crimes commis contre les reporters, demandant de protéger d'urgence les professionnels des médias dans la bande de Gaza, et de permettre l'évacuation d'urgence des journalistes palestiniens qui le souhaitent. Et nous demandons aux autorités palestiniennes de permettre un accès indépendant de la presse internationale dans la bande de Gaza, ce qui n'y a pas eu lieu depuis le début des conflits, pratiquement. Donc voilà un rappel de ce qui se passe et de toutes ces violations des droits humains.
Et donc, pour compléter ce que tu viens de dire, là aussi, le fait effectivement de tuer des journalistes, c'est pas récent. Hein, je veux dire, c'est pas l'État, les autorités israéliennes et le gouvernement israélien qui l'a inventé, loin de là. Mais c'est toujours un moyen, effectivement, pour faire taire ceux qui peuvent apporter une information qui est contraire aux déclarations officielles.
C'est toujours mettre un flou en disant ce que vous dites n'est pas vrai. Parce qu'en plus, vous ne pouvez pas vraiment l'affirmer.
C'est ça. Et ça me rappelle ce que je disais par rapport à Trump et ses deux satellites qu'il a demandé de détruire pour l'étude du climat. C'est la même démarche, effectivement, pour nier la réalité et pour faire que des choses absolument insupportables se produisent. Alors, pour terminer cette petite chronique sur Gaza, je vais vous lire la présentation d'un portfolio. Ce sont des photographies qui sont parues dans la dernière chronique. Alors, les photographies, c'est pas passable
sur
l'antenne.
Il va pas vous lire des photographies, mais vous avez dû en entendre parler quand on est vraiment dans les films, voilà, là, on va dire.
La présentation est tout à fait parlante. Ça s'appelle « Les yeux de Gaza ». Pendant un an, à partir d'avril 2024, Sepideh Farsi, cinéaste iranienne exilée en France, échange en visio avec la photographe palestinienne Fatma Hassona. Cette dernière documente quotidiennement le génocide commis par les autorités israéliennes dans la bande de Gaza. Fatma devient alors les yeux de Sepideh à Gaza, et Sepideh offre à Fatma un lien vers le monde extérieur. Forgé dans l'urgence, ce dialogue intime donne naissance au film « Put your soul on your hand and walk », ce qui veut dire en français « Mets ton cœur sur ta main et marche », nominé au Festival de Cannes en mai 2025. Mais le 16 avril dernier, alors que Sepideh Farsi pense à faire venir Fatma à Cannes, deux missiles israéliens ciblent le deuxième étage de l'immeuble où vit la photojournaliste et sa famille dans le quartier d'Al-Toufa à Gaza. L'attaque tue Fatma et six membres de sa famille. Seule sa mère a survécu. Voilà. Donc c'est tout à fait, c'est un des nombreux exemples, effectivement, des abominations commises par l'armée israélienne à Gaza.
Je crois que tu peux noter aussi qu'il y a le film qui va sortir.
Oui. Vas-y.
Alors, le film va sortir en salle le 24 septembre. C'est un film qui est soutenu par Amnesty. Il va y avoir un livre qui va aussi, peut-être qu'il est sorti ou ça va être en même temps, Les yeux de Gaza, donc avec les textes de leur dialogue. Et donc, Les yeux de Gaza, et c'est soutenu par Amnesty aussi, aux éditions textuelles. Donc, voilà. Si on veut voir, parce que quand on voit le sourire de cette jeune femme...
Oui. On ne peut que vous encourager à lire dans la chronique. On vous rappelle que les bulletins d'abonnement pour la chronique sont sur le site
amnesty.fr. Le cinéma et en parler. Cinéma.
Alors pour terminer cette première séquence, et juste avant la première pause musicale, je voulais aussi... Alors, on va complètement changer de pays. On va passer au Cambodge. On va passer de Gaza au Cambodge. Amnesty International, c'est ça. Hein. Et un petit article qui s'appelle « Escrocs malgré eux ». Voilà ce qu'il dit. « Il y avait quatre hommes. » Trois d'entre eux m'ont maintenu par terre pendant que leur patron me frappait sur la plante des pieds avec une tige métallique. Ils m'ont dit que si je n'arrêtais pas de crier, ils continueraient de me frapper. Lisa, thaïlandaise de 18 ans, cherchait un boulot pour les vacances scolaires. Des recruteurs lui promettent un travail administratif bien payé dans un hôtel avec piscine. Elle se retrouve au Cambodge, séquestrée, et forcée de travailler sans salaire pendant 11 mois dans un centre d'escroquerie en ligne. Son témoignage figure parmi ceux de 58 autres rescapés, dont 9 enfants, recueillis par Amnesty International. Fruit d'une enquête menée pendant 18 mois dans 53 centres d'escroquerie cambodgiens, le rapport, publié le 26 juin dernier, dévoile que des milliers de personnes sont toujours victimes de traite, d'esclavage, de torture et de travail forcé au profit de groupes criminels transnationaux, majoritairement chinois. Les victimes sont enfermées dans d'anciens hôtels ou casinos, transformées en forteresses, barbelées, vidéosurveillance, gardes armés. Privées de liberté, elles doivent elles-mêmes soutirer de l'argent à des internautes via des arnaques sentimentales ou de faux investissements financiers. Depuis la parution du rapport, le gouvernement cambodgien affirme procéder à des arrestations. Toutefois, des témoignages sur les réseaux sociaux signalent que la police arrête également des victimes et les enferme dans des centres de détention pour migrants. Voilà ce que dit ce petit article. Alors moi, j'avais déjà entendu, c'était sur France Culture, un autre reportage qui disait la même chose. Il s'agissait d'une femme de Thaïlande qui avait été enfermée, effectivement, pour faire ce genre de choses aussi. Mais donc, quand vous êtes escroqué sur Internet, et malheureusement ça arrive, sachez qu'il y a des gens derrière ça, des gens qui peuvent être,
rendus esclaves,
condamnés à l'esclavage, pour essayer de vous extorquer de l'argent. Voilà, sans commentaire.
Voilà, et moi ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'ils recrutent avec des petites annonces très alléchantes, aussi en Maghreb, en Afrique. Il suffit que les jeunes ils parlent anglais et en leur faisant rêver sur des postes dans les hôtels, des choses comme ça. Et après, on se retrouve complètement dans cette mafia.
C'est ça. Première pause musicale, on se retrouve juste après. Actif, donc Amnesty International, pour la suite de son émission. On vient d'écouter un groupe qui s'appelle Delgrez. Et j'ai choisi ce morceau en préparant l'émission parce que c'était un groupe qui était venu lors d'une soirée organisée avec nos amis du Tangram. C'était au CUM, mais ça remonte il y a déjà quelques années. C'était avant le premier confinement de Covid. Et ils étaient venus assurer la partie musicale de cette soirée qui était consacrée à la lutte contre l'esclavage et qui avait été co-organisée par Amnesty Évreux et le Tangram. Voilà.
Bonne mémoire.
Et oui, tout à fait. C'est à cette occasion-là que j'ai découvert ce groupe et depuis, j'ai acheté leur disque. Voilà. Donc, je crois que c'était Edith qui voulait vous parler, mais elle va vous le dire elle-même.
C'est pas compliqué, on n'est que deux ce soir.
Oui, je sais, je sais.
Voilà, bon, alors, blague à part, moi, je vais vous parler, alors... Vous savez que j'essaye de voir un petit peu tout ce qui se passe sur Internet, sur les médias, sur les choses comme ça. Et là, il y a de plus en plus d'articles qui dénoncent le fonctionnement. On a parlé de TikTok il y a déjà un moment par rapport aux jeunes. Bon, là, il y a au moins deux articles, donc deux rapports en plus, qui parlent de X. Alors, X, anciennement Twitter, comme disent très souvent les journalistes. Bon, X. Et X amplifie la haine. Donc, l'exemple, ce qui s'est passé dernièrement, c'est la Pologne, la haine contre la communauté LGBT. Donc, c'est des menaces de violence verbale, des harcèlements en ligne, divulgation d'informations personnelles. En Pologne, le réseau social X a contribué à propager la haine à l'encontre des personnes LGBT+. Face à de nombreuses violations des droits fondamentaux subies par cette communauté sur la plateforme, nous demandons la mise en place par X de réformes de toute urgence. Alors, c'est un rapport qui vient de sortir. Ce rapport repose sur comment ça s'est passé, sur des recherches menées entre mars 2024 et avril 2025, sur des méthodes participatives, des analyses quantitatives et des entretiens. Alors, c'est un petit peu dur ce que je vous dis là, mais c'est bien de savoir un peu comment fonctionne Amnesty aussi. Il y a eu des entretiens avec des personnes, des experts en droit numérique, un atelier participatif et un partenariat avec une organisation Algorithm Transparency Institute, donc voilà, qui gère des comptes et qui regarde comment ça se passe. Je vous donne un peu les exemples de ce qui peut se passer en Pologne quand on est de la communauté LGBT. Les personnes LGBT, ils disent que les personnes LGBT finiront dans des chambres à gaz, où ils parlent de nous comme si nous étions des déchets. Ils pensent qu'il faut nous purifier. Ce sont des gens tordus, que nous sommes brisés, que nous sommes malades. Je crois que malade est le mot le plus utilisé, dit Nathan. Ils disent que ces personnes ne sont pas normales, qu'elles sont contre les familles polonaises, qu'elles détruisent la famille polonaise, qu'elles ne sont pas des êtres humains, mais une idéologie, dit Jolanda. Ces propos haineux, les personnes issues de la communauté LGBT+, y sont surexposées sur X en Pologne. Sur la plateforme, c'est le règne de la violence, de la haine, de l'impunité, particulièrement à l'égard des minorités de genre. Donc, dans le rapport d'Amnesty, on analyse pour la première fois le modèle économique de X. Nos conclusions révèlent comment le fonctionnement de la plateforme et le manque de modération des contenus ont permis la propagation de violences de genre en ligne. X est conscient de ces dérives. X, comme toutes les plateformes de ce type, a l'obligation d'évaluer et d'atténuer les risques des violations des droits humains au niveau européen. Mais X ferme les yeux. Sur la plateforme, c'est l'impunité qui règne. Aucun contrôle n'est fait pour modérer les contenus violents et haineux. Maja Eben, une femme trans de 34 ans, raconte « Quoique vous, les utilisateurs et utilisatrices, puissiez dire, c'est bon. Mais lorsqu'il s'agit de comparer les personnes LGBT à des animaux, des violeurs ou des pédophiles, tout passe. Ces contenus haineux ont un impact extrêmement grave sur la santé des victimes. » Yolanda explique « Nous devrions reconnaître les réseaux sociaux comme faisant partie de notre vie sociale. Si nous disons quelque chose sur Internet, cela fait mal, comme si c'était réel. C'est nuisible, c'est douloureux. Cela peut être très puissant. Les réseaux sociaux n'affectent pas notre vie normale. Ils sont notre vie normale. Ils ont une influence sur nous. » Alors, ce qui se passe en Pologne, alors ça, quand j'ai lu ça, vraiment, j'ai été scotchée. Il y a une modération quasi inexistante. X a sous-investi de manière chronique la modération des contenus en polonais. Cela contribue à un manque flagrant de traitement des contenus à caractère violent contre les personnes LGBTI+. Dans ses propres rapports, l'entreprise indique qu'elle n'emploie que 2 personnes pour la modération des contenus en Europe, dont l'une pour qui le polonais n'est pas la langue maternelle. À elle seule, ces 2 personnes sont chargées de couvrir une population de 37 millions d'habitants, dont 5,3 millions utilisent X. Alors, le système de recommandation de Higgs qui alimente le fil pour toi est conçu pour capter l'attention des utilisateurs. Pour cela, l'algorithme met en avant les contenus qui génèrent le plus d'interactions, les likes, les commentaires, les partages. Ainsi, même si des protections existent, ce modèle peut contribuer à favoriser la diffusion de contenus violents et haineux dès lors qu'ils suscitent des réactions fortes et maintiennent l'engagement des utilisateurs et utilisatrices. Ce cumul de moyens, des règles et des pratiques insuffisants a contribué à faire de X une plateforme inondée de contenus haineux ciblant la communauté LGBT, dit Alia Al-Ghussam, chercheuse et conseillère sur l'intelligence artificielle des droits humains pour Amnesty. Alors, par ailleurs, Amnesty a aussi analysé le fonctionnement économique de X, qui révèle un modèle fondé sur la surveillance. Ce dernier s'appuie sur une collecte massive et invasive des données personnelles des utilisateurs et utilisatrices, cela de manière bien plus intrusive que nous le pensons. En exploitant nos données, le système instaure une surveillance et un contrôle insidieux sur nos vies. Il permet à la plateforme d'établir des profils précis des utilisateurs, de détruire les informations les concernant qui n'ont pas été communiquées, consciemment ou involontairement, comme nos origines ethniques, notre orientation sexuelle, voire de prédire notre état de santé ou nos opinions politiques. Non seulement il représente une menace considérable pour notre droit à la vie privée, mais également pour toute une série des autres droits tels la liberté d'opinion, d'expression, de pensée, notre droit à l'égalité ou encore notre droit à la non-discrimination. Donc, X, conscient de ces dérives, ferme les yeux. Il y a eu vraiment depuis 2024, les grandes plateformes en ligne ont l'obligation d'évaluer et limiter les risques des violations des droits humains. Ces obligations sont encadrées par le règlement européen sur les services numériques. Ouais, je parle de l'Europe, hein, parce qu'ailleurs, c'est plus compliqué. Ce dernier, donc les services numériques, ce dernier vise à protéger les citoyens européens face aux dérives des géants du web. Et cette année-là, la plateforme reconnaît les risques de haine, mais ça n'avance pas. Les moyens sont insuffisants. En d'autres termes, aucune mesure efficace n'a été mise en œuvre pour protéger les utilisateurs de X. Et X avait pourtant connaissance des dérives de sa plateforme. Et il est urgent qu'X respecte les obligations envers le DSA, donc le règlement européen. Donc, on fait les mêmes demandes, que la Commission européenne élargisse l'enquête qu'elle mène actuellement sur X afin d'examiner la capacité de l'entreprise à atténuer efficacement le risque de violence liée au genre, facilité par la technologie. Et la plateforme doit lancer des réformes pour arrêter de contribuer à des atteintes aux droits humains commises contre les personnes LGBT+, en Pologne, prévoir des moyens suffisants pour la modération des contenus en polonais et mettre fin à son modèle économique fondé sur la surveillance. Bon, quand on voit ça, franchement, on se dit, mais quand on va bouger ? Alors, je vous rappelle simplement que X appartient à
Elon Musk. Ben, bien sûr, ben, évidemment.
Voilà. Et Elon Musk, lui, il est prêt à mettre de l'huile sur le feu, voire plus. Et à la limite, on a l'impression qu'il se frotte les mains de tout ce qui peut aller à l'encontre des respects des droits humains, aussi bien pour les minorités. Car bon, je ne vais pas vous raconter l'autre article qu'il y a aussi sur le site d'Amnesty. Vous allez aller voir. C'est un rapport qui est paru sur les violences en Angleterre, violences racistes, de l'année dernière. Et là, pareil, on décortique. Bon, il y a peut-être un peu plus de superviseurs, enfin de modérateurs. C'est possible en Angleterre. Mais on décortique aussi tout ce qui se passe, comment est passée la violence par certaines figures d'extrême droite qui ont des comptes, mais qui ont dit des choses n'importe quoi. Parce que c'est un... Alors, je rappelle quand même, parce que moi, je ne me rappelais plus non plus tellement. C'est un meurtre tragique de 3 enfants en Angleterre. Et tout de suite, il y a eu, par rapport à des influenceurs d'extrême droite, en disant que c'était un musulman, un réfugié, un étranger. Ben non, malheureusement, c'est un Anglais qui a tué ces trois jeunes enfants. Et malgré le démenti de la police, ça a tourné en boucle dans les réseaux sociaux. Et Elon Musk a mis aussi là carrément son petit truc. Donc il a interagi sur les comptes qui relayaient les fausses informations à un migrant, etc. Il a commenté une vidéo déclarant que la guerre civile était inévitable en Angleterre l'année dernière.
C'est bien, effectivement.
Voilà. Et en donnant une visibilité considérable à cette vidéo, la priorité du système de X est de favoriser la communication, quel que soit le contenu, la nature du contenu. Donc voilà, on est sur la même chose, on fait du buzz, on fait, même si c'est des mots violents, des choses absolument intolérables au niveau de la protection des gens, du moment qu'il y ait du commentaire, eh ben X, il commence, il continue, il démultiplie, et vraiment, il met des gens dans des situations absolument intolérables pour leur vie ou pour la sécurité de l'État.
Oui, ou simplement pour avoir des rapports humains et sociaux à peu près apaisés. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on disait aussi en préparant l'émission, quand tu me parlais de qu'effectivement, en disant qu'Elon Musk avait dit que la guerre civile était inévitable, et ben moi, ça m'inspire aussi les réflexions en disant ceux qui disent ça, effectivement, ce sont ceux qui, logiquement, doivent se mettre en première ligne devant les fusils, effectivement, pour assurer cette guerre. Bien évidemment que ce ne sera pas le cas parce qu'ils n'ont absolument aucun courage.
Je pense qu'il a carrément beaucoup de bunkers pour se mettre à l'abri, des îles achetées, des choses comme ça. Enfin bon, je ne veux pas savoir, je ne veux pas faire de la délation, mais je pense que ce n'est pas celui qui sera...
Ces gens-là trouvent acceptable l'idée de guerre à condition que ce soit les autres qui soient tués. Effectivement, ça n'a là non plus rien de nouveau sous le soleil, mais bon, c'est sans commentaire. On va complètement changer de sujet. Je voulais vous dire quelques mots sur quelque chose de plus positif qui est aussi paru dans la chronique.
Oui, mais les réseaux sociaux, il faut quand même savoir, faut les démonter pour comprendre comment ça fonctionne.
Je suis bien d'accord. C'était sur un travail qu'avait fait la toute jeune section d'Amnesty Guinée, qui a été créée il y a quelques années, sur l'abolition de la peine de mort dans leur propre pays et comment ils ont obtenu gain de cause. Donc c'est une interview du président qui s'appelle Souleymane Sow, du président actuel d'Amnesty Guinée, qui, pour la petite histoire, a également fait des études en France, voilà, quand il était étudiant, et qui est retourné après vivre dans son pays d'origine. Et c'était lui qui était effectivement à la tête de cette opération pour faire abolir la peine de mort chez lui, chose qu'ils ont obtenue. Alors voilà ce qu'il dit. Quand nous avons appris que l'État, donc l'État guinéen, envisageait de réviser nos textes juridiques, notamment le code pénal, il nous est apparu évident que nous ne pouvions pas rester inactifs. Cette réforme allait aborder des sujets fondamentaux comme la torture ou la peine de mort, autant dire l'ADN d'Amnesty International. Mais nous ne voulions pas mener ce combat seul. Il était essentiel que notre position ne soit pas perçue comme imposée de l'étranger. Nous avons donc immédiatement cherché des partenaires au sein de la société civile guinéenne avec lesquels nous partagions des valeurs communes. Et nous avons créé le collectif d'ONG pour des textes respectueux des droits humains. Alors à la question qui lui est posée, comment s'est passé le plaidoyer auprès des élus ? Alors il répond, c'était intense. Nous avons réussi à mettre la main sur un répertoire contenant les coordonnées de tous les députés, qu'il a d'abord fallu actualiser. Ensuite, nous les avons contactés un par un pour leur présenter notre démarche. Je dois dire que nous avons toujours été reçus avec courtoisie, sans doute grâce à notre persévérance. De janvier à mai 2016, donc c'est quand s'est passée cette refonte du code civil guinéen, c'est comme si nous avions habité au Parlement. Nous y passions toutes nos journées. Je pense que notre capacité à décrocher autant de rendez-vous avec les députés venait aussi de cette posture. Jamais agressive, jamais partisane. Nous avons parlé avec tout le monde dans un esprit pédagogique. Nous rappelions que la Guinée avait signé des traités internationaux et qu'il était logique de les respecter. Un peu plus loin, il dit aussi que donc, par rapport aux gens qui étaient difficiles à convaincre, qui s'opposaient effectivement à l'abolition de la peine de mort dans leur pays, il précise c'est la chose suivante, c'est vis-à-vis de gens, donc d'élus qui s'opposaient à cette abolition de la peine de mort, c'est l'écoute et une argumentation éclairée qui nous ont permis d'avancer. Mais il a fallu aussi parfois utiliser d'autres moyens. Un président de groupe parlementaire restait inflexible malgré nos explications. Nous avons alors décidé de nous adresser au président de son parti politique dont nous connaissions la position abolitionniste. Nous lui avons dit « Nous sommes désolés, mais si cela continue, nous devrons communiquer publiquement sur les contradictions internes de votre parti. Le lendemain, le député devenait abolitionniste. Et pour finir, nous avons réussi à obtenir une majorité au Parlement. Voilà, donc ça, c'est quelques extraits de l'article. Alors, ça remonte il y a quelques années, mais c'est tout à fait emblématique de la façon d'agir aussi d'Amnesty International. Et pour conclure sur cette interview, donc de Souleymane Sow, et c'est un petit peu moins positif, parce que la Guinée, au niveau politique, a eu un coup d'État en 2021, et depuis, vit sous le régime d'un militaire qui a promis de faire des élections démocratiques, soi-disant, mais pour l'instant, on ne voit rien venir. C'est étrange. Et donc, Souleymane Sow dit la chose suivante, parce qu'il est toujours donc directeur d'Amnesty International là-bas. C'est beaucoup plus difficile à l'heure actuelle. Par exemple, en 2019, pendant la réforme du Code civil, nous pouvions encore organiser des sit-ins devant le Parlement pour mettre la pression sur les élus. Aujourd'hui, ce type de rassemblement est quasiment interdit. Mais il n'est pas question de se taire. En février dernier, Amnesty International Guinée s'est rendu à Genève avec 5 autres ONG guinéennes pour présenter nos recommandations dans le cadre de l'examen périodique universel des droits humains dans notre pays. La situation en Guinée reste complexe et inquiétante, mais nous continuerons à saisir chaque opportunité pour faire avancer les droits humains. On y croit. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, en cette rentrée, effectivement, où on va vous parler pendant toute cette saison de droits humains. On y croit, c'est fondamental, parce que de toute façon, une société sans droits humains, c'est une société où a lieu la guerre, et même, comme disait Edith tout à l'heure, et même si ça plaît à des gens comme Elon Musk, cette idée que la guerre arrive, nous, on trouve ça effectivement tout à fait insupportable. Voilà. On voulait parler de quoi
parce qu'il Petite est... pause musicale.
Oui, c'est ça, parce que je regarde la pendule, c'est l'heure de la seconde pause musicale. On se retrouve juste après.
Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur les temps soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. J'écris. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Liberté.
Liberté.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la dernière partie de son émission de reprise. Et ce morceau, ben, on le dédie à notre amie
pour
Claire
qui
Lise.
Pour Claire Lise.
On vous en parlait au début, qui est à l'hôpital, mais tout va bien. Et qui donc, pour elle, mais qui donc...
aime beaucoup cette chanteuse. Voilà. Et
c'était Madeleine Perron qui chantait le poème de Paul Éluard qui s'appelle Liberté. Claire Lise, vous l'avez lu dans une précédente émission il y a quelques mois en direct à l'antenne. Et elle aime beaucoup celle qui vient de le mettre en musique qui s'appelle Madeleine Perron.
Et nous aussi, on aime bien.
Tout à fait. Voilà, donc puisque
allez,
c'était
une bonne nouvelle.
Puisque c'était une chanteuse, je crois que tu voulais parler de femmes. Mais
oui,
mais
une petite bonne nouvelle. Nous avais promis une petite bonne
c'est
nouvelle.
C'est ça, oui, parce que c'est important aussi les bonnes nouvelles, hein, comme je vous disais. Donc, ça concerne l'Espagne, et ça s'appelle Armes à Israël, on en parlait d'Israël tout à l'heure, de la parole aux actes. Opposée à la guerre à Gaza, l'Espagne a tenu sa promesse. Début juin, Madrid a annulé l'achat de 1680 missiles anti-chars à l'entreprise israélienne Rafael pour un montant de 290 millions d'euros. Le gouvernement de Pedro Sanchez, qui a reconnu la Palestine en mai 2024, appelle désormais l'Union européenne à suspendre son accord d'association avec Israël et milite pour un embargo total sur les armes. On ne peut qu'encourager notre président actuel à faire la même chose, mais visiblement, il tergiverse.
Et l'Europe aussi. Pour ne pas dire pire. Voilà, parce que le commerce avec Israël, ben, ils n'ont pas tout fini, tout fermé.
Ça rapporte, et j'ai lu aussi ailleurs que les ventes d'armes l'année dernière, les ventes d'armes faites par la France au niveau global, avait encore bondi, c'était un nouveau record, effectivement. Et entre autres, parmi les principaux clients de la France qui achètent des armes, il y a Israël, bien sûr. Voilà.
Alors moi, j'ai envie de faire un...
Changeons de sujet.
Voilà, de vous parler d'un témoignage que j'ai lu. Alors, c'est chez nos amis belges, donc Amnesty Belgique, qui ont fait une université d'été dont le thème était « Élargir le champ de la justice internationale ». Et ils ont reçu Sabna Salador, qui est une journaliste et footballeuse afghane, réfugiée en France depuis près de 4 ans. Elle milite pour les droits des femmes de son pays d'origine. Et lors de cette conférence à l'université d'été, elle a abordé le thème de l'apartheid de genre. Elle nous livre ici son histoire et son combat actuel. En Afghanistan, j'étais dans l'équipe de football d'Herat, une grande ville du pays, de 2014 à 2020. J'étais aussi étudiante en sciences économiques et engagée sur des questions politiques. J'ai quitté l'Afghanistan un mois et demi après l'arrivée des talibans via le Pakistan. Comme je faisais du foot et que je travaillais pour les médias et que je militais, et avec tout ce que ma maman et les femmes de mon entourage m'ont raconté à propos du premier régime des talibans, je pensais que ma vie serait peut-être en danger. J'avais peur d'être emprisonnée. Je suis arrivée au Luxembourg le 7 octobre 2021, puis en France le lendemain. Et dès mon arrivée, j'ai milité pour les droits des femmes afghanes. J'ai notamment mené une campagne pour demander au gouvernement français de délivrer le visa français aux Afghanes. Mais les discriminations envers les femmes ont commencé avant l'arrivée des talibans. Déjà, dans certaines familles, des femmes étaient exclues simplement parce qu'elles sont femmes. Par exemple, mon père me disait toujours que je ne pouvais pas jouer au foot, car c'était pour les garçons. Le régime taliban prive toutes les femmes afghanes de leurs droits fondamentaux en raison de leur genre. C'est pour ça qu'on ne parle plus de discrimination, mais d'apartheid. Aujourd'hui, je me bats pour ça. Mais beaucoup de filles n'ont pas le pouvoir de lutter contre leur famille en Afghanistan. Désormais, ces discriminations sont encore plus globales. Ça n'arrive pas que dans les familles, ça vient du régime. Le régime taliban prive toutes les femmes afghanes de leurs droits fondamentaux en raison de leur genre. C'est pour ça qu'on ne parle plus de discrimination, mais d'apartheid. Elles n'ont plus le droit d'aller à l'école, à l'université, au travail, de faire du sport, etc. Du point de vue international, c'est difficile de faire vraiment reconnaître cet apartheid, car les talibans constituent un régime terroriste et non un État. C'est pourquoi nous menons plusieurs campagnes, parfois en collaboration avec des femmes iraniennes. On interpelle des médias, on participe aux conférences des Nations Unies. On demande à la communauté internationale de reconnaître cet apartheid de genre à l'égard des Afghanes. De mon côté, j'ai aussi lancé une pétition pour soutenir les athlètes afghanes. Pour moi, faire du sport, c'est un droit fondamental à défendre. Je crois que grâce à nos résistances, beaucoup d'États ne reconnaissent pas les talibans comme un gouvernement. Si nous restions silencieuses, je suis sûre que les hommes politiques, pour leur intérêt, les reconnaîtraient sans faire attention aux conséquences pour les femmes afghanes. C'est déterminant que les grandes organisations comme Amnesty International s'impliquent, car elles peuvent porter la voix des femmes afghanes jusqu'aux oreilles de la communauté internationale et de la société civile. Beaucoup de gens ignorent encore ce qui se passe pour nous. Après mes conférences, il y a toujours des personnes pour me dire qu'elles sont touchées, qu'elles aimeraient s'investir. Il faut réveiller cette résistance auprès des populations. Chaque jour, la situation empire pour les femmes en Afghanistan. Et avec tous les conflits dans le monde actuellement, les gens se détournent du sujet. La majorité a publié que les Afghanes vivent en enfer. On ne voit pas de drapeau, a oublié, excusez-moi, je ne comprenais plus ma phrase. La majorité a oublié que les Afghanes vivent un enfer. On ne voit pas de drapeau de l'Afghanistan lors de grandes marches pour le 8 mars ou pour le mois des fiertés. J'ai peur qu'on n'en parle pas, on oublie les femmes, le régime taliban soit normalisé et soit reconnu comme un véritable gouvernement. Alors je vous demande, n'attendez pas qu'il y ait toujours des femmes afghanes pour lever leur drapeau et parler de leur situation. Vous aussi, parlez d'elles. Ne les excluez pas des grands mouvements, ne les oubliez pas. Voilà, je trouve que c'est un beau résumé.
Oui.
Et effectivement, il ne faut pas les oublier et montrer que, elles existent parce que c'est terrible ce qui se passe en Afghanistan pour les femmes.
C'est tout à fait exact. Et je ne sais pas si c'était dans cet article-là, mais j'ai lu quelque part aussi que, en fait, l'appellation du gouvernement des talibans, ce n'est pas un gouvernement, c'est un groupe terroriste qui a pris le pouvoir. Effectivement,
c'est tout à fait ça.
C'est un groupe terroriste.
Et ça me semble vraiment très important.
Et les autorités internationales, quelles qu'elles soient, la communauté internationale qui est si prompte à qualifier de terroristes des gens qui les dérangent ou effectivement qui sont beaucoup plus insignifiants dans leur façon d'agir que les talibans. Par contre, ce qualificatif de terroriste, cette même communauté internationale et ces mêmes chefs d'État ont beaucoup de mal à qualifier ce groupe-là de terroriste, alors que c'est un groupe terroriste, mais qui terrorise sa propre population de façon absolument abominable.
Alors, il faut absolument, voilà ce qu'elle dit aussi, c'est éviter qu'il y ait des relations d'État à État. Mmh. C'est-à-dire qu'il reste des terroristes et un mouvement qui a pris le pouvoir, mais c'est tout.
C'est ça. reste qu'à faire en sorte, qu'à souhaiter et qu'à faire en sorte, autant qu'on peut le faire nous d'ici, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais comme ce que disait effectivement le cinéaste Pahani au début dont je vous parlais au début de cette émission, en souhaitant effectivement que, de la même façon qu'en Iran, ce régime des talibans effectivement s'effondre dans les meilleurs délais et laisse la place effectivement à des autorités qui seront beaucoup plus respectueuses de la démocratie,
voilà,
et des droits humains.
Moi, ce que j'ai retenu, tu vois, Didier, c'est de me dire que effectivement, pour le 8 mars ou pour d'autres manifestations, montrer le drapeau, mettre oui. femme afghane, on a fait des manifestations, oui.
on a fait des actions devant
des actions. Mais il faut qu'on continue aussi et qu'on ne mette pas ça. Ben oui, c'est fait. Mais non, elles ont besoin de mise en actualité régulière.
On va toucher à la fin de l'émission. Voilà, il y en avait encore un ou deux sujets qu'on avait préparés, mais qui seront pour une prochaine émission, puisque là,
c'est la rentrée. On avait plein de choix.
Oui, et puis c'est pas malheureusement les sujets qui manquent pour la défense des droits humains. Et voilà, malheureusement, parce que les choses ne sont pas au niveau international et national ne sont pas au mieux. Mais bon, on va continuer à agir, c'est pas ce qui nous arrêtera. Et donc, actualité locale, on a, bon, nous, notre prochaine émission, donc en direct sur l'antenne de Principe Actif, ce sera le mardi 30, de 19h à 20h sur l'antenne de Principe Actif, bien entendu. Et ce, deux fois par mois, jusqu'au mois de juin prochain, comme tous les ans. Et puis, on voulait faire un petit coucou à nos amis de deux groupes de la région. De groupe d'amnistie de la région, parce qu'on vous rappelle que nous, on est le groupe d'Evreux. En fait, on vous rappelle notre adresse mail.
Oui, mais la Normandie, c'est grand.
Oui, on vous rappelle aussi notre adresse mail. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. C'est evreux@amnistiefrance.fr. Voilà. Et donc, à Lisieux, le groupe de Lisieux organise le 21 septembre. C'est quand le 21 septembre ?
C'est ce dimanche.
C'est ce dimanche, voilà. Une bourse aux disques, vinyle, CD, cassettes, DVD musicaux, etc. Et ça sera de 9h à 17h30. La vente, effectivement, de ces articles étant destinée à financer
les actions d'Amnistie
Lisieux. Donc, ça aura lieu de 9h à 17h30 à la salle Mosaïque, boulevard Pasteur, à Lisieux.
Pour ceux qui se promènent ce week-end, parce que c'est aussi le patrimoine. On peut aller vers Lisieux.
Lisieux, c'est pas très loin. Et aussi un petit coucou à nos amis du Cercle d'Action Amnistie de Bernay, qui sont encore plus près que nous de Lisieux. Et au Havre, j'aime bien le Havre parce que c'est ma ville de naissance, pour ne rien vous cacher. Donc au Havre, aura lieu du 29 septembre au 10 octobre, donc c'est très bientôt, organisé par, sous l'égide d'Amnistie Internationale Le Havre, une rétrospective des affiches utilisées depuis la première journée mondiale contre la peine de mort. Et ça fait un lien avec ce qu'on vous disait sur l'action de Souleymane Sow en Guinée. Donc, première journée mondiale contre la peine de mort.
Sur les affiches.
Collection d'affiches. Voilà. Affiches. Et la première journée contre la peine de mort a eu lieu en 2003. Donc, c'est toutes les affiches qui ont été faites depuis. Et ça a lieu à la salle MJD, 8 rue Émile Sicre, 8 rue Émile Sicre, Sicre, pas du sucre, Sicre avec un I, au Havre. Voilà, du 29 septembre au 10 octobre.
C'est formidable, on fait même sur les week-ends maintenant. On leur donne des idées de week-end, on est quand même bon, hein, moi
ça,
je pense.
Exactement. Et on aura d'autres informations locales aussi à vous donner dans notre tout prochaine émission. Donc surtout, restez à l'écoute. Et puis aussi sur nos podcasts qu'on met sur le site d'Amnistie après les émissions, sur la rubrique Amnistie International.principactif.net. Voilà. Et donc, on se retrouve le 30.
Voilà.
Et puis on laisse l'antenne au laboratoire.
On va vous souhaiter une bonne soirée.
On salue l'ami Manu qui vient d'arriver.
Voilà, tout à fait. C'est vraiment la rentrée. On est tous là.
Et puis, on lui laisse la place. À très bientôt.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnistie International Évreux.